Soyez les bienvenus sur RVB. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé. Le talk show radio sur RVB, votre radio complice en Dordogne.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.
Chut, on écoute la télé avec Vue d'ici. Volet battant, coulissant ou persienne innovant. Fabriqué en Charente-Maritime. Vue d'ici, le seul et unique volet en composite monobloc à isolation ultra performante et au veinage bois issu d'empreintes naturelles. Vue d'ici, le meilleur volet à tout point de vue.
RVB, la plus locale des radios.
À Bergerac, c'est RVB sur 96.3.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Comme chaque lundi à 15h, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur RVB, votre radio en Dordogne. Pendant une heure, on va passer en revue toute l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors détendez-vous, on s'occupe du reste. Voici tout de suite le sommaire de ce lundi.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au sommaire de cette nouvelle édition de Chut, on écoute la télé, aujourd'hui deux coups de cœur ciné. Le premier pour Les Jeunes Amants, le nouveau film de Karine Tardieu avec Fanny Ardant et Melville Poupeau. Ils seront tous les trois nos invités dans une poignée de secondes. Nous aurons également focus sur la série Je te promets qui fait son grand retour ce soir sur TF1. Sa productrice Aline Panel et Camille Hilou seront nos invités exceptionnels. Les Particules élémentaires, également le téléfilm tiré du roman de Michel Houellebecq, sera diffusé ce soir sur France 2. Jean-Charles Cliché et Déborah François seront nos invités. Et enfin, l'émission spéciale super-héros malgré lui, toute la bande à Fifi est avec nous. Élodie Fontan, Philippe Lachaud et Julien Arruti seront avec nous. Et la semaine prochaine, d'ailleurs, ce sera Tarek Boudali qui nous rejoindra également. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer encore aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine dans Chut, on écoute ta télé, ça s'appelle Les Jeunes Amants. Le film sort mercredi et c'est le nouveau film de Karine Tardieu qui est justement notre invitée. Bonjour Karine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On recevra Melville Poupeau et Fanny Ardant et aussi d'ici quelques instants pour nous parler de ce très beau film, une véritable histoire d'amour. Et pour une fois, un homme de 45 ans qui tombe amoureux d'une femme de 70. D'habitude, c'est dans l'autre sens. Ça fait du bien de voir aussi une histoire d'amour traitée dans ce sens-là.
Et oui, absolument. C'est malheureusement beaucoup trop rare. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que fondamentalement, on aurait raconté l'histoire inverse. Ça n'aurait intéressé personne. Ça n'aurait pas fait un pitch. Voilà. Donc, j'espère que dans quelques années, on n'aura plus à raconter ce genre d'histoire et que ce sera tout à fait naturel d'avoir une femme d'un certain âge qui tombe amoureuse d'un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Et surtout, inversement.
Comment est venue l'idée ?
Alors, en fait, c'est une histoire assez particulière parce que elle a été initiée par Solveig Anspach, qui avait pour projet de réaliser ce film qu'elle avait commencé à écrire avec Agnès de Sacy, sa co-auteure. Mais Solveig, quand elle a commencé à l'écrire, se savait malade. Elle avait un cancer. En cours d'écriture, en fait, elle est morte. Et deux jours avant sa mort, Solveig, qui tenait énormément à cette histoire parce que c'était une histoire qui était d'inspiration biographique puisqu'elle était arrivée à sa mère. C'est une histoire qui lui avait été inspirée par sa propre mère. Solveig a fait promettre à sa co-auteure que le film se ferait au-delà d'elle et avec l'idée, l'espoir qu'il soit réalisé par une femme. Voilà. Je connaissais Solveig, on était amis, je connaissais son producteur Patrick Sobelman et Agnès de Sacy. Ils m'ont, après un certain temps, assez naturellement proposé le projet. J'ai pas tout de suite dit oui parce que c'était un peu lourd à porter de reprendre le projet de quelqu'un dont en plus j'étais relativement proche et qui venait de disparaître. Et puis voilà, et puis j'ai après réflexion en relisant le texte, je me suis dit que peut-être je pourrais me l'approprier. Et voilà, donc c'est le film est né de cette mort en fait au départ pour moi en tout cas. Voilà, donc c'est une histoire qui a été pour moi assez émouvante à faire. Tout le pari était d'être fidèle à ce que voulait raconter Solveig, tout en étant, tout en m'appropriant en fait le projet. Voilà.
C'est ça qui est assez magique. Moi, j'ai eu l'impression, parce que j'ai eu la chance de voir le film au Festival du film francophone d'Angoulême il y a quelques mois maintenant. La première impression que j'ai eue, Karine, c'est de passer deux heures dans du coton, dans une douceur extrême dans cette histoire, parce que c'est vraiment traité avec une douceur, mais totalement incroyable.
C'est une histoire d'amour, donc elle a sa part de joie et sa part de tragédie, mais c'est une histoire d'amour et puis cette douceur, elle vient sans doute de mes acteurs, du regard, enfin de l'amour que je leur ai porté aussi sur le tournage. Il y a une forme de tendresse, enfin d'ailleurs dont j'ai du mal à me départir d'un film à l'autre. J'ai toujours beaucoup de tendresse pour mes personnages et je ne peux filmer des acteurs que si j'ai une grande tendresse pour les personnages que j'ai écrits. Je suis heureuse si au final ça se ressent en tout cas.
Melville Poupeau et Fanny Ardant, ce duo, qui a eu l'idée de former ce duo?
Quand j'écris jamais en pensant à des comédiens parce que ça me permet justement quand je propose le rôle à un acteur d'être surprise par ce qu'il va me proposer. Alors Melville, ça s'est imposé assez vite. J'avais envie d'un acteur qui soit à la fois qui ait une forme de virilité et qui soit évidemment séduisant, mais aussi dont on sente qu'il a en lui une grande fragilité, et comme une espèce de colosse au pied d'argile qu'est le personnage de Pierre. Et Fanny, c'était compliqué parce qu'il fallait que je trouve une actrice qui assume son âge, parce que c'est vraiment l'histoire d'une femme de 70 ans. Et finalement, elles ne sont pas si nombreuses. Ça n'est pas leur faute, c'est la pression de la société qui fait que c'est compliqué de trouver une actrice qui n'a pas retouché son visage, qui n'a pas peur de se montrer telle qu'elle est. Alors Fanny est particulièrement belle, je dirais, pour son âge, mais malgré tout elle assume ses rides. Et quand je l'ai rencontrée, ce qui m'a touchée tout de suite, c'est qu'elle, j'ai senti à la fois chez elle une extrême pudeur, et en même temps elle m'a dit d'emblée qu'elle n'avait pas peur ni de la vieillesse ni de la mort, voilà. Et pour moi c'était essentiel. À partir de là, je savais qu'on allait pouvoir travailler ensemble sans phare, justement, voilà.
Eh ben nous, en tout cas, on l'a dégusté ce film et on vous conseille vraiment d'aller le voir au cinéma. Ça s'appelle Les Jeunes Amants. Fanny Ardant, Cécile de France, Melville Poupeau, bien sûr. Karine, merci d'avoir été avec nous. On va écouter la bande-annonce et puis on va revenir dans quelques instants avec Fanny, avec Melville qui vont nous rejoindre. Merci beaucoup, Karine. À bientôt.
Merci à vous.
On déjeune ensemble, Melville.
Mais te rappelles-toi ?
Viens avec moi. J'ai pas remis les pieds dans cette maison depuis 15 ans. C'est vous ? J'étais le médecin de Mathilde.
Je me souviens du médecin, oui. Mais il était beaucoup plus jeune que vous.
Ah oui, mais ça, c'est normal, c'était il y a 15 ans. Mais toi, tu habites...
Paris. Je viens ici pour me ressourcer.
Bon, bah merci, Shona. C'était vraiment... Ouais. Vraiment,
ouais. Bah oui. Ce que t'allais imaginer.
Allez, de retour après la bande-annonce Les Jeunes Amants, on va laisser place à Melville Poupeau et à Fanny Ardant qui nous ont rejoints pour cette suite de cette spéciale. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et bonjour Melville.
Bonjour.
Que vous avez tremblé en le regardant dans Insoupçonnable. Oh là là, franchement, hein ?
Attention.
On se demandait franchement s'il allait être démasqué un jour. Hein.
Il est toujours là.
Il est toujours là. En tout cas, vous nous embarquez mercredi au cinéma dans une histoire... Une belle histoire d'amour. Et ça fait du bien, je le disais à Karine il y a quelques instants. On passe vraiment un beau moment, comme dans du coton, dans une douceur extrême sur cette belle histoire de Shona qui se laisse séduire par évidemment le personnage de Melville, 25 ans plus jeune qu'elle. Et c'est cette belle histoire qu'on voit se dérouler sous nos yeux. Qu'est-ce qui vous a plu en premier à tous les deux dans cette histoire, Melville ?
Moi, j'ai adoré ce scénario, et dès que j'ai lu le scénario, je me suis imaginé face à Fanny Ardant et je me suis dit c'est l'occasion rêvée de faire un film avec cette actrice que j'ai toujours admirée, d'avoir ces scènes à jouer, ce rapport. J'avais l'impression qu'on allait bien s'entendre. Voilà, ces deux êtres blessés, chacun de leur côté, qui tout à coup subissent quasiment ce coup de foudre. Et se lance à corps perdu dans cette histoire d'amour éprouvante et en même temps magnifique et romanesque. Voilà. Et je sentais aussi que dans le cinéma de Karine Tardieu, il y avait ce souffle un peu très romantique, épique, un peu comme certains films hollywoodiens, quelque chose de bigger than life, quoi.
Qu'est-ce qui vous a plu, Fanny, vous, en premier, justement, lisant le scénario ?
Justement, la place qui était mise pour l'amour, l'amour fou, l'amour malgré tout. Ça me plaît que l'amour soit au centre des choses.
Moi, ce que j'aimais avant tout aussi, c'est vraiment cet amour qui s'emballe comme ça, malgré que le personnage soit marié. Hein, le personnage que joue Melville est marié. Alors évidemment, en premier lieu, on se dit ouais, il trompe sa femme. Puis en fait, mais on se prend d'affection pour ce couple et on se dit mais c'est tellement beau en fait, l'histoire d'amour passe par-dessus tout ça, par-dessus la tromperie, parce qu'on oublierait presque quand même qu'il est en train de tromper sa femme, finalement.
Bah, c'est comme on disait, c'est deux êtres blessés qui ont survécu à plusieurs drames. Enfin, en l'occurrence, mon personnage a perdu un enfant. quelqu'un qui a toujours tenu un peu, qui a voulu préserver sa famille, qui a voulu continuer sa vie malgré les douleurs, et qui tout à coup, face à cette nouvelle rencontre, perd pied et se dit « mais en fait, ma vie, elle est là. Et je remets tout en jeu, et peu importe le futur, même si j'aime ma femme, que j'ai de l'affection, pour, évidemment, pour cette cellule familiale, je peux pas passer à côté de ça. J'ai déjà pris beaucoup sur moi. » Et là, c'est le moment que je me donne et que je me lâche et que je suive le destin. Et voilà, là, cette rencontre, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du destin.
Comment on pourrait la définir, Shona ?
Elle est libre, elle est entière. Et en même temps, elle a le poids des choses qu'elle a vécues. Elle est intelligente. C'est déjà beaucoup.
Et elle est drôle. Et sa fille, qui veille sur elle quand même. Hein.
Oui. Ah, moi, j'adore le rapport avec ma fille. Parce que c'est très difficile d'avouer à sa fille qu'on tombe amoureux d'un homme qui pourrait être un fiancé d'elle. Donc elle traverse tout ça. Est-ce que je pense que c'est s'approchant de la mort, elle sent que toute la vie doit être vécue intensément, sans justement plaire à tout le monde. C'est pas quelqu'un qui veut plaire, elle se jette. Justement, quand elle sent qu'elle est malade, elle ne veut pas entraîner cet homme jeune, beau, avec toute la vie devant lui dans cette espèce de tourbillons, de malheur. Donc, mais lui, c'est lui qui a la réponse de la fin, en disant tant qu'on respire. Tu vois.
C'est ça, cette phrase est magnifique. Ouais.
Lui a plus de sagesse qu'elle, elle est plus friable, elle est plus entamée.
Quand vous avez rencontré Melville, Fanny, vous vous êtes dit quoi ?
Non, mais je l'avais vu au cinéma. Donc il restait mystérieux, parce que par définition, je pense toujours qu'un acteur, c'est un être limité. Et puis, quand on s'approche d'un acteur, qui est plus qu'un acteur, c'est intéressant. Les conversations, l'univers qu'il peut apporter à lui. Je pense que toujours n'être qu'un acteur, il y a quelque chose de pathétique. Tandis qu'un acteur qui est avec quelque chose d'autre, c'est là où tout commence.
On voit bien les fêlures, effectivement, de ce personnage. Et vous savez les jouer vraiment de façon assez incroyable. On s'embarque et il craque aussi. Hein, ce personnage n'hésite pas à craquer. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé ce film, voilà, je vous disais, vraiment d'une grande douceur. Ça vient certainement aussi de la réalisatrice quand même aussi. La metteuse en scène, Karine, apporte cette douceur aussi sur un tournage.
Absolument. À la fois une douceur et une grosse volonté, une grande volonté. Elle était très précise dans ses directions de jeu, dans sa mise en scène. Je sentais dès le départ qu'elle avait envie de ce format très cinématographique, le scope. Il y a des nuits américaines, il y a quelque chose d'un peu très romanesque. Un mélo, en fait. Je pense qu'elle avait en tête l'idée d'un mélo, d'une histoire d'amour qui balaye tout sur son passage, qui est cet amour irrépressible. Et j'ai eu l'impression qu'elle saisissait ce projet qui lui était pas destiné à la base, parce que c'était quand même le scénario écrit par une autre femme, réalisatrice, Solveig Anspach, qui lui a passé le relais. Et elle s'est dit, OK, cette histoire-là, je la fais mienne, et j'ai envie de lui faire honneur, et en même temps de développer mon cinéma et ma mise en scène. Voilà, je trouve qu'elle a amené quelque chose de presque hollywoodien dans la facture, en tout cas, de la mise en scène. Et je pense que c'est à la fois un film intimiste, mais qui a aussi un souffle assez ample, qui n'est pas un petit film d'une histoire personnelle, un petit peu étriquée sur sa vie privée, tout ça. Il y a quelque chose d'un peu universel qu'elle a su développer, notamment grâce à la mise en scène.
Effectivement, c'est très bien d'approprier cette histoire qui n'était pas la sienne au départ. Et justement, quel est votre plus beau souvenir de tournage à tous les deux ? Est-ce qu'il y a un moment merveilleux dont vous, ouais, que vous vous souviendrez à jamais sur le tournage de ce film ? Melville.
C'est vrai que j'ai senti depuis le début avec Fanny qu'il y avait une envie de rigoler. Malgré le drame du film, nos personnages, cette histoire intense d'amour et tout ça. Et il y avait une envie chez Fanny d'en découdre. Bon, ça toujours, je pense que c'est dans sa nature. Mais aussi de créer une complicité un peu sous-jacente. Entre les prises, entre les plans, de faire des petits clins d'œil et d'embrayer tout de suite sur une connivence, pas se moquer de ce qui se passait, mais garder un certain recul. Et c'est ce que j'admire aussi beaucoup chez Fanny, et je trouve qu'on sent dans son jeu, c'est que c'est jamais premier degré. Il y a toujours un brin d'humour, un œil qui pétille.
L'œil qui frise, comme on dit.
L'œil qui frise, même si son personnage, Shona, dans le film, est confronté à des problèmes, voilà, comme elle le disait, la mort qui arrive, cette histoire d'amour, est-ce que c'est opportun de se lancer dans une histoire d'amour maintenant ? Est-ce que je ferais pas mieux de garder ma petite vie tranquille et de m'éteindre doucement ? Et finalement, tout ça avec beaucoup d'humour et de recul, en disant un petit clin d'œil à la mort. En fait, c'est un peu comme toujours, c'est un rapport à la mort. Et lui faire un petit pied de nez, lui dire voilà, bah ok, bah t'es là, tu rôdes, mais moi je vais quand même en profiter. Tu m'auras pas ce petit plaisir que je vais m'octroyer et fuck.
Exactement, d'en profiter jusqu'au bout.
Oui, absolument.
les projets pour 2022, qu'est-ce qui vous attend? Est-ce qu'on va vous voir dans d'autres choses?
Là, je suis en train de tourner un film de Jean Becker avec Gérard Depardieu.
Melville?
Et moi, je suis en train de faire la deuxième saison d'une série OVNI pour Canal+. Et j'ai fait aussi un film avec une réalisatrice qui s'appelle Mia Hansen Love, qui sortira en 2022. Donc. Mais je crois que Fanny aussi a des projets de réalisation et de... très personnels.
Votre propre film?
Oui.
Bon. On suivra ça, puis on sera là, j'espère, en tout cas, pour en parler. Merci à tous les deux. Merci Melville et merci Fanny d'avoir été là.
Merci.
Merci et vive le Poitou.
Et les jeunes amants, eh bien ça sort mercredi au cinéma. Voici un petit extrait.
Je vais avoir 71 ans.
C'est qui?
Shuna Losinski.
C'est une vieille dame.
Shuna, c'est comme ma mère, putain, pourquoi tu me fais ça?
Tu vas pas bouleverser ta vie pour une femme qui a pas d'avenir. Ça rime à rien, Pierre.
Et dans un instant, Aline Panel, Camille Hilou, Déborah François, Jean-Charles Cliché, la bande à Fifi, ça continue dans Chut, on écoute la télé, à tout de suite.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé, revient dans un instant, à tout de suite.
RVB, la radio de toutes les musiques.
La radio de toutes les musiques. À Bergerac, c'est RVB sur 96.3.
RVB.
Il y aura toujours un rendez-vous.
Un combat oublié.
Toujours un rêve à faire. Il y aura toujours un rendez-vous.
Un signal à donner à nos amis, nos frères.
Une note envolée aux quatre coins du monde. Une goutte d'espoir qui inonde. Il y aura toujours un rendez-vous. Un sourire à laisser à nos enfants demain. Et ça ira.
Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et c'est le grand retour de Je te promets ce soir sur TF1 pour une nouvelle saison inédite, la deuxième. Et on va commencer bien tout de suite cette spéciale avec Aline Panel, sa productrice, qui est notre invitée. Bonjour Aline.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Saison 2, ça y est, tant attendu après le succès de l'année dernière. Aline, on va avoir enfin quelques réponses aux questions qui sont restées en suspens, bien évidemment, dans cette première saison. Mais déjà un petit mot, la chance qu'on a aujourd'hui quand même, c'est que Je te promets tourner en grande partie sur notre territoire de Nouvelle-Aquitaine et en Charente-Maritime principalement. C'était un choix de départ, hein, je crois, pour toi.
Hein. Oui, c'est vraiment un axe très fort de l'adaptation par rapport à la série américaine. Je voulais qu'on reconnaisse les lieux et qu'on distingue les lieux du passé et du présent, parce que c'est aussi une spécificité française, souvent de ne pas être parisien d'origine. Et j'avais envie aussi qu'on voit plus les paysages et les contextes que la série américaine tournée en studio, puisque c'est une de nos forces, nous ne sommes pas tournés en studio, mais en décor naturel. Et donc on voit la France, c'était très important dans le cadre de l'adaptation, de montrer qu'on était français. Voilà, du coup, cette côte, parce qu'elle est peu utilisée, je voulais que ce soit rare, et que beaucoup de séries en France sont tournées, comme on le sait, en région PACA ou en Occitanie. Et du coup, voilà, j'ai fait ce choix qui était un peu aussi un pari, parce que il y a du coup, comme il y a moins de séries historiquement tournées ici, il y a aussi moins de techniciens formés, etc. Mais on a vraiment réussi à faire quasiment 200% techniciens locaux, et on a trouvé tous nos décors. Et du coup, on a quelque chose aussi de qui auditorialement joue beaucoup, c'est-à-dire que on a ce soleil qui se couche sur la mer et qui est propre de l'Atlantique, la marée qui se retire, ça donne quelque chose de très beau, de très dans l'imagerie qu'on s'est donné, très doré, très voilà, avec du flair, et puis aussi de nostalgique, parce qu'il y a une certaine tristesse en fait, et c'est ce que ça raconte, la nostalgie du passé perdu. Voilà, donc ça c'était bien, et puis du coup on a décidé de jouer beaucoup sur les éléments et sur la mer en fait, et donc c'est un autre axe d'adaptation, c'est que Paul travaille dans les bateaux, a la passion du bateau, etc. Donc ça va être quelque chose qui va jouer de plus en plus dans les saisons.
Alors on y suit le destin de cette fratrie avec Maud, Mickaël et Mathis. On les suit évidemment dans le passé, dans le présent. On suit un peu toute leur vie comme ça avec évidemment tous les problèmes qu'on peut avoir dans une vie, ce qu'on peut y rencontrer. Tu le disais, il y a quelque chose de très nostalgique dans cette série, à la fois quelque chose auquel on peut facilement tous s'identifier. À un des membres de la famille ou à ce qui leur arrive. Je pense que c'est ça aussi la force de la série américaine que tu as su retranscrire toi en France. Tu avais malgré tout quelques appréhensions sur l'acceptation de cette adaptation française par les fans de la série, par exemple, américaine.
Oui, ah ben ça c'est sûr que c'était très relayé. Les doutes et les voilà, le scepticisme des fans de la série. Bon, ben c'est des conflits de loyauté qu'on connaît par cœur, hein. Donc ça on peut pas lutter contre. Mais je dirais
rassuré quand même aujourd'hui.
Rassuré parce que finalement, honnêtement, la plupart se sont arrêtés leur discours ou même ont changé de discours en disant mais c'est bien. Donc ça c'était une vraie réussite, une vraie fierté pour nous. Et puis bon, de toute façon, je suis très heureuse et je les accueille avec grand plaisir. Mais je dois dire que cette série, elle m'a énormément touchée, la série américaine, pour plein de raisons, je l'ai déjà dit. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi je voulais la faire connaître à ceux qui ne la connaissaient pas. Donc c'est vrai que j'ai pas fait la série toute la journée en me disant je vais me démarquer à tout prix pour ceux qui la connaissent. Voilà, j'ai gardé ce qui était bien, j'ai adapté ce qui était de nécessité à adapter. Puis après la vie française en fait, elle suit son cours naturellement après une fois qu'on a changé des racines au départ. Bon bah après ça pousse autrement. Ça c'est le travail qu'on fait avec les auteurs, mais je l'ai fait surtout parce que j'aimais cette série, je voulais que la proposer au public français en général, et a priori j'ai pas tellement pensé au public qui la connaissait déjà.
Alors on y retrouve pas mal de touches nostalgiques des années 90 et tout, des touches bien françaises, que ça soit au niveau musical, que ça soit au niveau archives télévisuelles aussi. Il y a un gros travail qui a été fait vraiment pour qu'on se replonge dans ces années 90, je dirais presque qu'il nous manque tant.
Oui, alors ça, je dois dire quand même, c'est aussi une touche de mes productions. C'est aussi ce que je fais sur Sam dans un autre genre, c'est-à-dire je fais un gros budget sur la musique. Il y a la musique qu'on appelle le score, la musique, la composition originale.
Et c'est... Ouais, souvent, c'est le parent pauvre. Et là, toi, tu en as fait une force, justement, sur tes séries.
Alors, donc, mais les deux côtés, c'est-à-dire à la fois la bande musicale créée par Fabrice Aboulker, qui fait toutes mes productions, est absolument de grande qualité et riche. Et puis, à côté, c'est vrai qu'on rajoute tous ces titres. Et là, je me suis dit, ce qui est super, et ça coûte très cher, et c'est pas du patrimoine. Et je me suis dit, là, j'ai l'occasion de mettre de la chanson française, et moi, j'adore ça. Donc, j'en profite. Et voilà, de jouer aussi sur cette corde, de retrouver les titres qu'on a aimés, que nos parents ont aimés, que nos grands-parents ont aimés, que nos enfants réécoutent. D'ailleurs, ça, c'est assez chouette. Voilà, on s'est dit un titre, un épisode, un titre, minimum. Et donc, on le crée à l'écriture, ce passage où on va pouvoir entendre cette chanson, parce que le problème, c'est que les paroles sont en français. Et donc, c'est souvent pour ça que dans les séries françaises, on met pas de musique française, enfin, de chansons françaises, parce que ça se parasite, en fait, les dialogues et les chansons. Et là, on a créé l'espace nécessaire dans les scénarios pour qu'il n'y ait pas de dialogue à ces moments-là, ce qu'on appelle les ponts musicaux. C'est en général vers les deux tiers de l'épisode, on a suffisamment d'émotions emmagasinées pour avoir envie de les voir évoluer sans dialogue les uns les autres autour d'une chanson qui fédère tout ça et qui a une résonance au niveau du thème de la chanson et de ses paroles sur ce qu'on est en train de raconter.
On va en écouter un petit extrait de la bande originale d'ailleurs dans quelques instants. Camille Lou, Hugo Becker, qui tournent beaucoup dans notre région, sont aussi un peu le fleuron de la série puisque ce sont les parents qui sont joués de Mathis, Maud et Michael, Paul et Florence. Un couple qui met souvent les larmes aux yeux, une émotion intense que dégagent justement Camille et Hugo dans leur rôle aussi. Dans cette saison 2, on va avoir pas mal de réponses, je pense, à des questions, mais pas toutes, puisque la série est faite pour être distillée sur plusieurs saisons. Mais va-t-on savoir enfin pourquoi et comment Paul est mort dans cette saison 2 ?
Oui, ça je peux vous répondre tout à fait ouvertement. Cette saison principalement répond à cette question des circonstances de la mort de Paul. Et elle répond également psychologiquement aux conséquences que ça va avoir sur chacun des enfants et sur Florence. Notamment à cause de l'état dans lequel ils sont tous dans leur relation à lui au moment de sa mort. Parce que le problème de ce décès, c'est qu'il n'est pas prévu, il est accidentel. Le deuil, comme on le sait, est très difficile à faire en général, et encore plus quand on ne le prépare pas, quand on n'a pas dit au revoir. C'est le cas de chacun d'eux, évidemment, puisqu'ils ne sont pas prévenus, ça va être accidentel. Et par ailleurs, tous sont dans une forme de relation plus ou moins apaisée avec leur père. Et qui vont donc se traîner ensuite toute leur vie, en fait. Et pas forcément avoir les moyens et les outils pour régler ça. Voilà. Et donc, c'est ce que ça raconte toujours, je te promets. C'est comment nos névroses héritées de nos parcours d'enfants font les êtres adultes qu'on est et comment on peut travailler là-dessus. On va même, en contemporain, avoir une tentative de travail de thérapeutique, je dirais, dans cette famille, voilà.
Alors, l'année dernière, le parti pris avait été de choisir des comédiens différents pour incarner différentes époques, notamment pour le personnage de Camille ou Bruno Sanchez. Cette année, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que ces comédiens vont être vieillis justement pour les incarner plus vieux? Je crois que c'est une direction qui était peut-être, on va dire, en pourparlers d'être prise pour cette saison 2.
On a fait vraiment le choix d'être le plus possible raccord, voilà. Donc on ne change rien. Et même dans les costumes, etc., vous allez vraiment retrouver la continuité de la saison 1. C'est très important pour le passé, puisque le passé, on revient tout le temps sur les mêmes moments. Donc, on peut pas vraiment évoluer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut aller vite et que nous sommes déjà en train d'écrire la saison 3. C'est parce que nos comédiens, bon, ils sont jeunes et beaux, on voit pas qu'ils vieillissent. Et on aimerait être comme eux, mais je parle des adultes, Camille et Hugo, mais les enfants, ils grandissent. Donc, il faut pas qu'ils grandissent trop parce que on revient tout le temps sur les mêmes moments, voilà. Donc non, on est raccord. Camille Lou est interprétée, enfin le personnage de Camille est interprété par Nathalie Roussel à Paris. Bon, bah Paul est mort, ça je peux le dire. Donc il n'y a pas de Paul vieux. Et son meilleur ami, c'est Lionel Astier qui interprète le même rôle donc que Bruno Sanchez.
On va retrouver, je te promets, ce soir pour une nouvelle saison inédite. Aline, on va retrouver Camille dans quelques instants, justement. On va continuer à parler avec elle du personnage, justement, de Florence. C'est une série vraiment qu'on soutient, d'une, parce qu'elle est déjà tournée dans notre belle région, mais parce que, voilà, on aime également beaucoup cette série, sa belle musique aussi, fabriquée de main de maître par Fabrice Aboulker, qu'on avait mis, d'ailleurs, en avant l'année dernière. On va en écouter un petit extrait de cette musique, juste avant de retrouver Camille. Merci à toi, Aline, et à bientôt.
Au revoir à vous, et merci beaucoup.
À très bientôt.
Vous savez quoi ? Aujourd'hui, je deviens officiellement papa d'accueil.
Bonjour. Bonjour, Rose.
n'ai jamais arrêté de penser à toi.
Tu crois que tu peux débarquer comme ça, foutre le bordel dans ma vie?
Je te jure que j'ai changé.
Tanguy, faut que je te parle. Je suis enceinte. Je s'emballe pas, d'accord? J'ai 39 ans, je fais plus de 100 kilos, donc c'est une grossesse à risque.
Mais faut qu'on garde espoir.
Même si c'est pas facile tous les jours, je veux passer chaque seconde de ma vie avec toi.
Vous allez adorer les retrouver. Je te promets, saison 2 inédite, prochainement sur TF1.
Et on continue notre spécial, je te promets, le lancement ce soir, hein, je vous rappelle, sur TF1 de la saison 2. On continue avec Camille Hillot qui nous a rejoint justement, qui incarne Florence. Bonjour Camille.
Bonjour.
C'est ton année, hein, dans Je t'en écoute la télé. Hein, quel bonheur de t'avoir à nouveau avec nous. Et en plus, pour le lancement de cette très belle série, saison 2, où enfin, on le disait avec Aline il y a quelques instants, ça va être un peu le fil rouge de cette saison. On va enfin savoir comment est mort Paul. Il va falloir préparer les mouchoirs, hein, pour cette saison.
Ouh là là, oui, le paquet. Prenez le paquet de mouchoirs parce que c'est... Moi, j'arrivais pas à m'arrêter après les scènes en les tournant, donc préparez-vous.
Justement, c'est intense. T'as besoin d'une préparation particulière, quand même d'une concentration extrême pour te mettre dans la peau de Florence. C'est quand même un personnage particulier qui offre une palette d'émotions, mais tellement hallucinante.
C'est un personnage qui est... on peut se retrouver très très facilement dans la peau de Florence. C'est une femme d'aujourd'hui aussi, c'est une femme actuelle. On n'est pas en guerre 14-18, on peut facilement quand même s'imaginer ce qui se passe puisqu'on peut le vivre aujourd'hui de la même manière. Donc c'est pas que ça demande une concentration extrême parce que c'est loin de ce que je pourrais vivre ou de ce que je vis ou de qui je suis. C'est plus dans le sens où j'ai pas du tout envie de vivre ce qu'elle vit. Du coup, je vais me concentrer pour m'autoriser à vivre ces émotions-là parce que c'est violent. Et même si on les joue, on les vit un petit peu quand même. Je sais pas comment expliquer ça. Et c'est ça surtout qui est le plus dur, c'est que ça coûte un petit peu.
Ouais, ça va être un peu la saison du deuil, effectivement, que l'on va pouvoir suivre. On va avoir les réponses. On disait comment est mort Paul aussi. Mais on va continuer évidemment à voir Hugo à travers tous ces flashbacks qui nous font revenir dans les années 90. Qu'est-ce qui t'a séduit en premier, toi, quand t'as vu la saison 1 monter, finie, avec toutes les musiques, toutes les petites touches qui nous rappellent quand même ces années-là?
Bah, ce qui m'a touché le plus, comme tu... en fait, c'est ça, c'est le fait que c'est le côté nostalgique de la série et elle est tellement bien ancrée dans le paysage français. C'est très bien réussi. Ça m'a vachement touché, les musiques, même les petits rappels, la musique d'Étienne Dao, tout ça, j'ai trouvé que ça amenait un truc très particulier, très nostalgique.
Mais dis-moi, c'est bien que tu puisses être chanteuse en plus, parce que comme le personnage de Florence chante, comme celui interprété d'ailleurs par Mandy Moore dans la série This Is Us, mais c'est bien justement que tu puisses aussi chanter, apporter cette petite touche en plus.
Ça, c'est sûr que c'était un peu la cerise sur le gâteau pour moi. J'étais déjà, c'est tout ce que j'aime, parce que moi, le drame, j'adore ça. Moi, je suis une drama queen, hein, j'adore ça. Et puis, en plus de ça, oui, il y avait la musique, quoi, la chanson. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas chanté à l'époque de la première saison. Je m'étais complètement arrêtée de chanter. J'avais fait un arrêt total de la musique parce que je m'étais un peu perdue. J'avais pas assez de caractère. Je savais pas assez où je voulais aller pour continuer à chanter. Et là, du coup, ça a été un peu le début du renouveau de la chanson dans ma vie. Je sais pas comment expliquer. C'était vraiment au moment où j'étais prête à rechanter, etc. Donc ça a été assez symbolique pour moi.
Faut une bonne entente avec son partenaire de jeu. Parce que, avec Hugo, vous partagez des scènes tellement fortes en émotion. Il faut que, là, vous commencez à vous connaître par cœur quasiment maintenant après avoir tourné déjà une saison.
Ah, bah, c'est sûr qu'avec Hugo, on a une complicité qui est très forte. Mais ça s'est fait tout de suite. Parfois, ça opère tout de suite. Parfois, ça opère pas du tout. Et parfois, ça vient avec le temps. Mais alors là, ça opérait tout de suite. Avec Hugo, on avait déjà tourné une fois ensemble. On n'avait pas du tout des rôles qui se voyaient beaucoup, mais on s'était connus, on s'était rencontrés, on avait beaucoup parlé, on s'avait matché, on s'était très bien entendu. Donc c'est aussi ça, que ça a peut-être été plus simple quand on s'est trouvé sur ce projet. Ça a matché tout de suite. Et en plus de ça, là, on est en deuxième saison, donc on a eu le temps de se connaître encore plus. Et ça matche encore plus. Donc c'est magique et c'est génial, quoi, quand c'est comme ça. C'est merveilleux.
Alors, il va y avoir plein d'effets, évidemment, dans cette nouvelle saison. Il va y avoir du feu, il va y avoir de l'action, il va y avoir de l'émotion. Bref, des palettes de sentiments. On va passer par tous les états, hein, dans ces 12 épisodes.
Bon, on parle pas. J'aimerais me reposer la tête, là, tellement il y a d'émotions différentes à la journée, quoi. C'est vrai que on passe par toutes les émotions.
T'as une scène particulière qui te revient en mémoire, là, dans cette saison 2, pour le coup, qui a été intense, qui a été difficile pour toi?
Ah bah, c'est très simple, hein, c'est la mort de Paul, hein. Vous ne saurez pas ce qui se passe, mais c'est... Ouais, ça m'a plutôt bouleversée. J'ai eu du mal.
C'était éprouvant.
Oui, et puis j'ai eu du mal à m'en remettre après. C'est très très bizarre. Il y a eu, je peux on peut pas s'empêcher, quand, enfin moi personnellement, je peux pas m'empêcher d'y voir un peu de ma vie et de m'imaginer à la place des gens si ça m'arrivait. Donc il y a une empathie vis-à-vis de mon personnage où je me dis, je pourrais être à la place de cette femme, ça pourrait être mon conjoint à moi. Et d'un seul coup, enfin c'est vrai que les pleurs quand elles partent, c'est extrêmement fort. Et suite à ça, j'avais du mal à m'arrêter de pleurer. Et dès que j'essayais d'écrire à mon chéri, je pleurais. C'était très bizarre.
C'était intense.
Oula, oui, beaucoup trop intense.
Tu regardes la série originale ou pas toi? Est-ce que tu l'as regardée ou est-ce que tu t'interdis de la regarder justement
Je m'interdis complètement de la regarder et pourtant, là c'est
T'as
pas...
envie?
Ah ouais, là j'ai envie, j'ai vraiment envie. Mais après la saison 1, hein, la fin de la saison 1 là et tout, je me disais j'ai tellement envie. Mais comme il était fort probable qu'on fasse une saison 2, je me suis interdit de la regarder.
Tu la regarderas après.
Voilà, je ne sais pas dans combien de temps du coup.
On espère que ça va durer en tout cas un bon petit bout de temps tout ça. Alors il y a plein de choses aussi hein, pour toi qui arrivent. Il y a Les Combattantes que tu as fini de tourner aussi en fin d'année dernière, la future grosse fiction de TF1 pour Igaté qui vient de sortir en DVD aussi. Le film est sorti le 15 septembre dernier au cinéma et on peut le voir en DVD. Moi je vous conseille vraiment de vous précipiter sur la VOD si vous n'avez pas eu le chance de voir le film ou en DVD, parce que là on te voit complètement différente dedans, je te promets. C'est là qu'on voit la palette de comédienne vraiment que t'es capable de nous offrir.
Ah bah ça fait plaisir, parce que c'était un vrai challenge pour moi, donc j'avais très très peur. Je dis drama queen, la drama queen peste, c'était moi mon domaine et je m'en suis bien amusée en tout cas.
Avec Tom Leb, on a bien ri.
Ah oui, non mais Tom, il est exceptionnel dedans, il est à mourir de rire. Mais lui, c'est un acteur incroyable, donc ça m'étonnait pas.
Bon, des projets à foison pour le coup, c'est l'année Camille Lou 2022, on te retrouve dans Je te promets, c'est ce soir sur TF1, la saison 2, enfin j'oserais dire. Merci à toi Camille.
Merci.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Coup de cœur télé consacré eh bien au téléfilm et particules élémentaires qui seront diffusés cette semaine sur France 2. Téléfilm inédit où on retrouve au casting Déborah François dans le rôle d'Annabelle et qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Déborah.
Bonjour.
Merci d'être là. Jean-Charles Cliché également. C'est la première fois qu'on t'accueille, Jean-Charles, dans l'émission. C'est un bonheur parce qu'on te voit dans plein de films aussi. Donc voilà, bienvenue en tout cas dans Chute, on écoute la télé. C'est le rôle de Michel.
Bah merci. Merci de m'accueillir, c'est très chouette.
Alors, tous les deux, vous êtes à l'affiche de ce film qui est une adaptation d'un roman de Michel Houellebecq. Les particules élémentaires, pour essayer de planter un petit peu le décor en premier, qui c'est qui veut nous raconter voilà un petit peu l'histoire de base. Déborah?
Ben alors l'histoire de base, c'est qu'on suit la trajectoire de deux frères à travers le temps, donc depuis leur enfance, en passant par leur adolescence et jusqu'à l'âge adulte. Et ces deux demi-frères, dont on peut dire que c'est les deux garçons les plus opposés qu'il y a au monde, c'est un petit peu comme le disait Jean-Charles, c'est un petit peu la tête et les pulsions, voilà. Il y a d'un côté la chair et de l'autre côté la réflexion, qui est donc le personnage de Jean-Charles, qui est Michel, très intellectuel, enfin il en parlera mieux que moi, et Guillaume Gouix qui joue son frère Bruno.
Comment on pourrait définir Annabelle? Comment tu la définirais toi, Déborah?
Annabelle, c'est l'amie d'enfance de Michel, qui va devenir aussi l'amie du coup de Bruno. C'est l'amour perdu qu'on a perdu pendant son enfance et qu'on retrouve, qu'on recroise en fait des années plus tard. Et du coup, il reste tout ce qu'on a pu vivre en fait de beau et de difficile pendant l'enfance et l'adolescence. Et en même temps, c'est des personnes qui sont complètement différentes, puisque quand il s'écoule 20 ans dans la vie, forcément, on a changé, on a vécu des choses et c'est retrouver un peu voilà cette partie fraîche adolescence dans un adulte qui a vécu des choses pas faciles.
C'est retrouver cette particule élémentaire, c'est bien dit. Hein. Michel, comment pourrait le définir Jean-Charles?
Ah, Michel, c'est voilà, bon bah, c'est une partie d'un Michel Houellebecq possible. Michel, c'est un scientifique qui est extrêmement doué dans son travail parce qu'il travaille sur le clonage. Alors c'est très clivant comme secteur, mais en tout cas ça demande quand même d'être assez pointu. Et ensuite avec une vie quotidienne qui est très faible, disons. Voilà, avec une petite vie étriquée un petit peu dans un petit appartement et en même temps un cerveau très puissant. Voilà.
Une question que je me pose toujours, parce qu'il y a deux écoles pour le coup, quand on est sur une adaptation comme ça d'un roman, est-ce que vous lisez avant le livre ou pas, avant de tourner, ou préférez justement garder une certaine fraîcheur et plutôt le lire après, avoir cette curiosité, ou justement pas du tout? Déborah.
Moi, je préfère lire après, très clairement, à part si c'est une vision du réalisateur, la réalisatrice qui me dit, voilà, on est resté très très proche, donc il y a beaucoup de choses dans le livre que j'aimerais retrouver dans le film, même si elles sont pas forcément écrites. Là, en l'occurrence, je savais que comme c'est un livre voilà, de plus de 500 pages, donc c'est très difficile à condenser, donc l'adaptation est magnifique, mais c'est vrai qu'il y a des pans du livre qu'on peut pas forcément tout mettre dedans. Et donc, du coup, j'ai préféré rester sur l'adaptation, qui m'a plutôt donné envie de lire le livre, en fait, bizarrement.
Comme quoi, oui, moi aussi, ça me fait souvent cet effet-là. Oui, ouais, c'est vrai.
En plus, je dis bizarrement, mais bizarrement, parce que c'est vrai que dans ce sens-là, on s'y attend moins, quoi.
Jean-Charles ?
Bah, moi, il se trouve que je l'avais déjà lu, donc...
Trop tard, oups.
Toi, tu lis, c'est ça ce que tu veux dire ? Non, moi, je lis.
Non, c'est vraiment pas ça, en plus. Non, mais il se trouve que voilà, je l'avais lu. Et bah, il m'est arrivé quand même, pendant le tournage, de reprendre des passages et tout ça en me disant, ah tiens, ah, j'avais oublié qu'il y avait ça. Et souvent, des passages qui étaient pas dans le scénario. Parce que le scénario est vraiment très proche du livre. C'est là où vraiment la qualité du scénariste est très... vraiment, il a fait très très bien son boulot. Ça donnait un décor aussi, de relire un petit peu, de lire aussi autour, quoi. Enfin, j'ai pas trouvé ça dérangeant.
Joli casting, en tout cas. Guillaume Gritz qui les accompagne, Pascal Arbillot. Si je me trompe pas, il y a plein de beaux mondes, en tout cas. Patrick Mill aussi. Est-ce que vous avez un meilleur moment à nous raconter un peu sur ce tournage? Il y a une scène qui vous a marqué particulièrement?
Il y a un moment, moi, que j'ai adoré, qui m'a fait beaucoup rire, c'est, il y a une scène où on fait une cérémonie pour la mort de notre mère. Il y a une cérémonie hindoue.
Le ton devient sérieux.
Oui, une cérémonie hindoue, et il y avait un chaman, donc, qui est là, qui nous accueillait. Et vraiment, c'était quand même très, très drôle. On n'avait même pas à jouer, ça nous faisait rire, cette situation nous faisait rire avec Guillaume, de nous dire, ah oh, ouais, c'est vrai quand même, c'est absurde de d'un occidental vouloir mourir d'une façon complètement différente, quoi. Elle est toute maquillée en blanc et tout, enfin je veux dire, c'est...
Et Pascal toute maquillée, ouais, avec ouais, du plâtre sur la tête pour jouer la mort, la pauvre. Sang, c'est dur en plus.
Les gars en sari, enfin je veux dire, c'est... Moi je sais pas, moi ça m'a fait vraiment beaucoup rire, quoi. Et la tête de Guillaume qui était incroyable, qui devait jouer, genre, moi ça me plaît pas du tout, quoi, qui était vraiment en colère. Moi ça me faisait rire.
Mais comment t'as réussi à ne pas rire? Parce que moi, en lisant les scènes, et puis quand je les ai vues, les Guillaume et Jean-Charles l'un à côté de l'autre, qui s'entendent, faut le dire, je ne trahis aucun secret, mais qui s'entendent hyper bien, qui sont très très drôles ensemble, je me suis dit, mais moi j'ai de la chance de ne pas faire partie de cette séquence, parce que je leur pourrirais la séquence en rigolant, quoi, c'est impossible.
On s'est retenu, je t'avoue que les premières prises, on se marrait, hein. Bah, on ouvrait la porte, on voyait les gars, on était là, fou rire, quoi. C'était vraiment hyper drôle.
C'est dur à faire quand t'as une découverte.
Oui.
Que tu découvres tout d'un coup, et c'est vrai que ça te le fait plusieurs fois, tu peux avoir le...
Bon, les particules élémentaires, en tout cas, c'est cette semaine. Mais alors, moi, j'aimerais savoir s'il y a d'autres projets quand même aussi pour vous. Cinéma, télévision, théâtre, ça y est, ça reprend enfin aussi. Donc voilà, est-ce qu'il y a des choses qui arrivent pour vous deux, fin 2021, début 2022?
Moi, je vais avoir une autre un téléfilm pour France 2 aussi, de Philippe Claudel, qui s'appelle Le bruit des trousseaux, qui est une adaptation de son propre roman. Donc on est encore sur une adaptation, et là je pars sur une série pour France 2 aussi.
Bien. Jean-Charles ?
Moi, je vais un peu retourner au théâtre. Je vais un peu retourner au théâtre avec Christophe Honoré. Après, il y a des sorties. Il y aura la sortie du film que j'ai tourné avec Alain Guiraudy. Et puis d'autres choses, des séries, Mytho, OVNI, voilà.
Canal aussi. Très bien tout ça. Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et puis on rappelle que les particules élémentaires, eh bien, c'est cette semaine sur France 2 à 21h05. Merci et puis à très bientôt.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Les particules élémentaires, d'après Michel Houellebecq. Deux demi-frères. Un génie.
Un jour viendra où il n'y aura plus de mère, plus de père, plus de famille, que des clones enfin libres.
Un obsédé.
Je m'appelle Bruno Clément, ça se barre en couille dans ma tête.
Annabelle. Et la révolution.
L'humanité devait donner naissance à une nouvelle espèce, asexuée et immortelle.
C'est dégoûtant.
La vie, c'est toujours un peu dégoûtant.
Les particules élémentaires. Le best-seller de Michel Houellebecq, adapté pour la première fois à la télé. lundi soir à 21h10 sur France 2.
Allez, surtout, vous ne bougez pas, dans une poignée de secondes, la bande à Fifi fait son arrivée dans Chut, on écoute la télé, on parle de super-héros malgré lui. Philippe Lachaud, Élodie Fontan et Julien Ruti nous rejoignent. Alors, à tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite.
RVB, la radio de toutes les musiques.
RVB, la radio complice.
RVB.
Comme un crève-cœur, j'attendrai son nom. 7 heures désertigueule, sensible mais sensible. 6 heures entente mineure sur mes ennuis. 5 heures par quel mystère, je crois qu'elle m'aime. On se fait si bien du mal, on fait si bien. On se fait si bien du mal. On se fait si bien du mal. On fait si bien. Je crois que ça devient animal. Pourquoi tu te fais la mal? Quand je te fais du bien, quand tu fais du mal, tu reviens. Dis-moi si je te fais mal. Quand je te fais du bien.
Le talk show radio, le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné est consacré à super-héros malgré lui, le film, le nouveau film de Philippe Lachaud sort mercredi dans les salles. Quel bonheur, on est là à chaque film avec eux, la bande à Fifi réunie avec Philippe qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Philippe.
Bonjour et merci, c'est vrai que on se connaît depuis un petit moment maintenant, depuis le début, donc merci de toujours nous suivre.
Exactement, t'es pas venu tout seul aujourd'hui avec Élodie Fontan qui est avec nous. Bonjour Élodie.
Bonjour, bah moi aussi, je suis ravie d'être là.
Merci d'être avec nous Élodie. Et puis Julien Ruti qui est là avec nous. Salut Julien.
Bonjour Alain, comment ça va?
Ça va très très bien. Alors, super-héros malgré lui, c'est une histoire de super-héros, l'histoire de Batman. Comment est venue cette idée déjà Philippe, en quelques mots?
Écoute, c'est venu il y a pas mal d'années maintenant. Et en fait, à la base, c'était même pas une histoire de super-héros, c'était plutôt une parodie de La mémoire dans la peau, Jason Bourne, où à la base, on s'était dit, tiens, ce serait marrant peut-être qu'un acteur perde la mémoire et se prenne vraiment pour un espion, un film d'espionnage dans lequel il jouait. Et très vite, on s'est dit, tiens, ce serait peut-être plus fort et plus fou qu'au final, il joue non pas dans un film d'espionnage, mais dans un film de super-héros. Et qui se prennent pour un super-héros. On trouvait ça plus drôle, plus dingue, et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de super-héros malgré lui.
Et alors là, Elodie, pour une fois, joue pas la femme du super-héros, elle joue sa sœur ce coup-ci, Éléonore.
Exactement. Oui, ça me change complètement comme rôle, c'est un rôle qui était assez loin de moi. Donc on a bien travaillé pour trouver un juste milieu, parce que c'est une militaire, qui a un côté garçon, très marqué. Elle fait d'ailleurs un peu flipper la bande, hein. Enfin même beaucoup flipper la bande. Et donc elle est toute tatouée, des gros colliers. Donc on essaie de trouver un juste milieu pour qu'on croie à ce personnage qui est quand même assez loin de moi, qui reste crédible, et on s'est bien éclaté. Enfin, je me suis bien éclaté avec ce personnage.
Ça se voit bien. Allez, grand Julien, comment dire, Seb, c'est à chaque fois les rôles comme ça, c'est pour toi, quoi.
Dans la lignée des rôles précédents, un bon demeuré, comme il se doit. Non, bah, c'était très cool à jouer celui-là aussi comme personnage, parce que il a des caractéristiques assez cool. Le fait qu'il teste des médicaments pour gagner de l'argent et du coup il a les effets secondaires des médicaments, ça c'était plutôt rigolo à jouer. Et puis aussi la situation avec Tarek, qui en fait est le mec de ma mère. Du coup, c'est plutôt rigolo. Donc non, je me suis bien amusé. Puis il y avait même aussi une transformation physique, alors pas en termes de musculation, mais plutôt d'un point de vue capillaire. Donc j'avais des cheveux, c'était rigolo. Et une dégaine de clochard. Parfait, quoi, tout moi.
Le top. Philippe, alors évidemment réunis toute la bande, hein, comme d'habitude, mais il y a aussi plein de guests qui viennent. Quel bonheur de revoir Georges Corafas sur nos écrans, qui a été un des héros de nos sagas d'été. C'est un vrai bonheur de voir Chantal Latsou, Jean-Hugues Anglade. Enfin, c'est incroyable encore le beau monde que tu as réussi à réunir.
Bah, en fait, voilà, on estime que ces gens-là nous font des cadeaux à chaque fois. C'est vrai parce qu'ils viennent pour des rôles plus ou moins importants. Bah, Jean-Hugues Anglade notamment, c'est vrai qu'on est très fiers de l'avoir dans le film. Il y a Régis Laspalès aussi qui vient. Ça faisait un moment qu'on voulait tourner avec lui, on est très content qu'il nous ait rejoint. Et Jean-Hugues Anglade qui interprète mon père, en fait il fait un chef de la police. Et c'est vrai que c'était important pour nous d'avoir quelqu'un de plutôt crédible. Et Jean-Hugues amenait cette couleur au film, c'est vrai, on voulait quelqu'un qui faisait pas forcément que de la comédie. Et Jean-Hugues avait bah, cette palette et... On le connaît notamment pour son rôle dans Braco, qui est top. Et voilà, on est très fiers d'avoir joué avec lui et on le remercie d'avoir accepté.
Alors, on est sur l'histoire d'un super-héros, enfin d'un acteur un peu raté qui décroche le rôle de sa vie, en quelque sorte, celui de Batman, jusqu'au moment où il va avoir un accident. Et on ne sait pas ce qui va se passer dans sa tête, mais en fait, il va croire qu'il est vraiment dans son rôle. Et c'est là que ça va prendre une dimension, évidemment, totalement loufoque et aventurière, en quelque sorte, aussi.
Bah oui, c'est ça. C'est le pitch du film. C'est ce mec qui joue dans un film de super-héros qui va perdre la mémoire et qui va du coup se prendre pour un super-héros et qui va vouloir terminer sa mission en pensant faire le bien, mais mal, comme on dit sur l'affiche du film. C'est un rôle un petit peu autobiographique, alors pas pour le côté super-héros, mais voilà, ce comédien qui au début rêve de percer, rêve d'être une tête d'affiche pour rendre fier aussi son père, et tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu autobiographique. Tous, on avait un petit peu ces rêves plus jeunes de percer dans le cinéma et de rendre fiers nos parents, donc voilà, c'est un petit peu inspiré de nous.
Et quand tu fais les publicités pour les préservatifs extra small, c'est autobiographique aussi ou pas?
C'est vrai qu'au début du film, je fais des... Voilà, c'est un comédien un petit peu en galère qui fait des...
Mais alors attends, demandons plutôt à Elodie.
Alors ça, tu vois là, ça c'est petit Aruti, c'est petit, c'est petit Aruti.
Il y aura vengeance, Julien Aruti. Je n'ai rien sous le coude, mais il y aura vengeance.
Je sais pas, je vais te sauver la mise, Elodie. On va écouter la bande-annonce tout de suite et on revient juste après.
Je m'appelle Cédric, je suis comédien et je viens de passer le casting du rôle de ma vie. Batman. À la base, j'étais pas le premier choix.
Allô?
Pour moi, Batman, c'est toi.
C'est moi qui ai le rôle, gros. C'est moi, Batman.
Mais grâce à un petit coup de pouce du destin... Batman, c'est moi.
Action!
Le premier super-héros français. Bref, tout allait au mieux jusqu'à cette fameuse nuit où j'ai perdu la mémoire.
Quel est votre nom?
Je sais pas. C'est quoi ça?
Vous savez plus comment vous vous appelez, monsieur?
Bonjour, Batman.
Batman?
Je crois que mon frère se prend pour le personnage de son film.
Un super-héros?
Il est parti terminer sa mission.
Écoutez-moi bien parce que je vous le dirai qu'une seule fois. C'est compris ?
Allez, de retour pour notre spécial super-héros. Malgré lui, quel bonheur de vous avoir tous les trois. Elodie Fontan et Philippe Lachaud et Julien Aruti sont avec nous aujourd'hui, sont nos invités à l'occasion de la sortie de ce nouveau film. Alors, on sait que la comédie, c'est pointu. On sait qu'à l'écriture, on sait qu'au tournage, voilà. Mais est-ce qu'il y a des scènes quand même où vous n'avez pas pu vous retenir de rire, quoi, Elodie ?
Non, jamais. On était très disciplinés. Non, alors je peux pas.
Je peux balancer sur Julien, vas-y. C'est là, moment de la vengeance.
Je peux pas spoiler, mais vous verrez, il y a une scène assez loufoque où il fait quelque chose dans un endroit pas très approprié. Et cette scène-là, on l'a beaucoup attendue. Et pourtant, c'est lui qui écrit, hein, donc il se met tout seul quand même dans la merde. Hein.
Il fait très bien le mime, hein. Je vois la scène que tu veux dire. Et franchement, tu mimes à merveille, Julien.
Et celle-ci, il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui vont apprécier la scène, hein, qui ont filmé autour. Je sais pas s'ils l'ont posté sur les réseaux, mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup ri.
Julien?
Non, on s'est tapé des fous rires avec Tarek et Elodie à un moment quand on est dans l'ambulance, parce que c'est nul à expliquer, mais en fait c'est plus, des fois tu ripes un peu sur un mot et du coup ça fait rire les autres. Et en fait, pour faire croire que l'ambulance roulait, il secouait l'ambulance. Et en fait, voilà, on s'est tapé un énorme fou rire là-dessus. Et une autre fois aussi à la fin, alors je peux pas trop dire pourquoi exactement, sinon je vais spoiler un peu le film, mais Fifi fait un truc où il dit en avant! Et genre, il était à fond dans son truc. Et nous, les trois derrière, on a explosé de rire. Du coup, lui, il était dégoûté. Il avait mis une musique et tout sur le plateau pour se motiver et tout. Et bah, du coup, ça a été coupé. Parce qu'on a trop ri. Et... T'étais triste de devoir couper ça ou pas?
C'était une scène très premier degré où je devais lancer un assaut en criant en avant! Et eux, ils devaient me suivre derrière. Sauf qu'en fait, je crie le truc, personne me suit tellement ils sont par terre, explosés de rire. J'ai dit bon, on va essayer sans le texte. Et au final, on part sans que je dise en avant.
Alors moi, il y a une de mes scènes préférées. C'est l'hommage à Mel Bent. Là, on va pas évidemment dévoiler ce qui se passe dans cette scène, mais moi, l'hommage à Mel Bent, j'ai franchement adoré. Qui a eu cette idée dingue?
Alors, l'inspiration, ça peut venir de n'importe quoi. Ce gag-là, donc pareil qu'on peut pas trop raconter, ça se passe dans une voiture. Et c'est un gag qu'on avait fait chez Carl Zero il y a très très longtemps et qui nous avait toujours éclaté des rires. Et du coup, peu de personnes l'ont vu parce que c'était un petit sketch qu'on avait fait chez Carl Zero. Et là, il tombait à merveille. C'est-à-dire qu'on s'est dit, tiens, viens, on refait le gag qu'on avait fait il y a longtemps. Donc c'est un gag qu'on avait écrit il y a très longtemps et qu'on a refait dans le film. Et on est très contents parce qu'effectivement, ça rit très très fort dessus. Donc on est contents.
Vous êtes au courant que c'est franchement un film que là, vous venez de faire qui fait du bien, qu'on a besoin en ce moment? Et que le public, je pense, va vraiment adhérer au fait qu'on a besoin de rire en ce moment. Et vraiment, merci de faire des films comme ça. On a besoin de vous.
Écoute, c'est très gentil. On a dû faire à peu près une centaine de cinémas depuis le début de la tournée. Et c'est ce que les gens, c'est ce qui ressort beaucoup, effectivement, c'est ça. Et tant mieux. Écoute, si on peut servir à ça, tant mieux.
Merci. En tout cas, infiniment, on va terminer par vos projets pour 2022. Après le film Elodie.
Ben normalement, mon prochain, ce sera un film encore avec les copains. Je me lasse pas. Donc normalement, on devrait faire Alibi 2 l'année prochaine, au printemps.
Ah yes!
On a hâte.
Un petit retour Nicky Larson aussi ou pas? Est-ce que tu travailles, t'aimerais?
Et alors, bah pareil, dans toutes ces dates d'avant-première, on nous pose la question, mais genre 9 fois sur 10, est-ce qu'il y aura une suite à Nicky Larson? Elodie pousse à mort pour faire la suite de Nicky Larson.
Moi, j'ai envie de revoir Laura. Hein. Laura, j'ai envie de revoir Elodie en brune.
Ouais, ça je peux comprendre. Bah écoute, peut-être, on verra. Voilà, c'est vrai que ça trotte dans nos têtes. Il y a des idées. On verra, peut-être.
N'hésitez pas à continuer à nous le demander, du coup, même sur les réseaux, sur tout ce que vous voulez. Poussez-le à le faire. Moi, je suis 100% pour. Je vous suis.
Julien, Alibi 2 pour toi aussi.
A priori, oui. En principe, hein, à moins que je sois licencié d'ici là, mais on l'a écrit ensemble, toujours avec les copains, Pierre Dudan, Pierre Lachaud, Fifi et moi, et on a hâte de tourner. Et puis, si tout se passe bien, on devrait aussi tourner la suite du film de Tarek la même année aussi, qui s'appelle 3 jours max cette fois-ci.
3 jours max, vous avez enlevé le zéro.
Voilà, exactement.
Merci à tous les trois. On va se réécouter un petit extrait. Super héros malgré lui, ça sort mercredi dans les salles. Merci à tous les trois encore une fois.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Faut le rattraper avant qu'il fasse une connerie. Oh pardon.
Celui-là, quand on va le coincer, il va prendre très très cher.
Je peux pas faire prendre de risques à ses enfants. Comment de tous les spermatozoïdes elle a pu arriver le premier?
Je suis désolé, c'est terriblement gênant.
Je comprends mieux pourquoi les super-héros mettent leurs slips par-dessus leurs pantalons.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, ce sera l'événement avec la venue du Palma Show. Et oui, Grégoire Ludig et David Marsay seront nos invités exceptionnels à l'occasion de la sortie du film Les Vedettes. Arthur Rimbaud également, le film de Laurent Canté, sera l'honneur dans notre émission puisque Laurent Canté sera là avec son acteur principal. Un rendez-vous à ne pas manquer. Et puis Robert Renucci également sera avec nous à l'occasion de la diffusion de Leonardo, la nouvelle coproduction internationale de France 2.
Toute la musique que tu aimes,
est sur RVB.
Et n'oubliez pas, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine avec la quotidienne du lundi au vendredi à 9h15 et 15h30 sur RVB. Retrouvez également cette émission en podcast dès 20h ce soir sur notre site internet onécoutelatélé.com. Et pour rester connecté avec nous, plusieurs solutions, notre application Chute on écoute la télé pour iPhone et Android. Et nos pages Facebook et Instagram vous attendent également. Et je vous retrouve bien sûr lundi prochain dès 15h pour la grande hebdo de Chute on écoute la télé. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur RVB et je vous dis à demain pour la quotidienne.
Chute, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Pineuil, votre spécialiste culture, centre commercial Grand Pineuil.
Chute, on écoute la télé avec votre magasin Optical Center de Bergerac-Cresse. Optical Center, c'est toute une équipe de professionnels à votre écoute. Des offres exceptionnelles, les plus grandes marques, le choix et la qualité. Optical Center, votre spécialiste en optique et en audition, vous accueille zone commerciale, porte de la Dordogne à Cresse.